Alors aujourd'hui, je vais vous lire la manifestation supramentale sur la Terre de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par la mère, et c'est le corps divin. On pourrait croire qu'une maîtrise complète devrait suffire, une connaissance de l'organisme et une vision de son fonctionnement invisible. Une maîtrise effective qui règle ses opérations conformément à la volonté consciente, ce genre de possibilité a déjà été réalisé et l'on affirme qu'il fait partie du développement des pouvoirs intérieurs chez certains individus. Arrêter la respiration tout en gardant l'équilibre de la vie et du corps, sceller hermétiquement et à volonté non seulement le souffle, mais toutes les manifestations vitales pendant de longues périodes. Arrêter volontairement le cœur également, tandis que la pensée, la parole et les autres activités mentales continuent sans interruption. Tous ces phénomènes et bien d'autres témoignant du pouvoir de la volonté sur le corps sont des exemples connus et bien prouvés de ce genre de maîtrise. Mais ce sont là de simples succès intermittents et sporadiques. Ce n'est pas la transformation. Il faut un contrôle total, une maîtrise permanente habituelle. En fait, il faut une maîtrise naturelle. Mais même si l'on y parvenait, il faudrait encore quelque chose de plus fondamental pour opérer la libération complète et changer notre corps en un corps divin. On pourrait soutenir ainsi que la structure organique du corps, autant que sa forme extérieure, fondamentale, devrait continuer d'exister comme une base matérielle, indispensable pour garder le lien avec la nature terrestre. Faire la jonction entre la vie divine et la vie de la terre, et assurer la continuité du processus évolutif en espérant une rupture vers le haut, un éclatement hors de l'évolution, dans un état d'être qui appartiendrait à un plan supérieur à proprement parler et non à une réalisation divine sur la Terre. Prolonger l'existence même de l'animal dans notre nature en le transformant suffisamment pour qu'il devienne un instrument de la manifestation et non un obstacle serait indispensable à la préservation de la continuité, à la totalité évolutive. L'animal serait nécessaire en tant que véhicule vivant, Vahana, du Dieu qui émerge dans le monde matériel et qui devrait accomplir les œuvres et les merveilles de la vie nouvelle. Il est certain qu'une forme corporelle est nécessaire pour faire la jonction et qu'il faut un corps dont le fonctionnement puisse contenir le dynamisme terrestre et ses activités fondamentales. Mais ce chaînon ne doit pas être une chaîne, ni une limitation emprisonnante, ni une contradiction de la totalité du changement. Or, précisément, garder notre organisme tel qu'il est, sans la moindre transformation, serait assurément une chaîne et un emprisonnement dans la vieille nature. Il y aurait bien une nouvelle base matérielle, mais elle serait tout à fait terre à terre. Ce serait la vieille terre, et non une terre nouvelle, avec une structure psychologique plus divine. Car le vieil organisme ne serait pas en harmonie avec cette structure plus divine. Il serait incapable de servir son évolution future, ni même de supporter cette structure et de lui servir de base dans la matière. Il enchaînerait une partie de l'être, la partie inférieure à une humanité non transformée, à un fonctionnement animal inchangé, et empêcherait sa libération en la surhumanité de la nature supramentale. Un changement est donc nécessaire ici aussi. Cela fait indispensablement partie de la transformation totale du corps qui divinisera l'homme tout entier, du moins ultimement, au lieu de le laisser à son évolution incomplète. Ce but, disons-le, ne serait pas loin d'être réalisé si les chakras, les centres avec leurs instruments et leurs forces, régner sur toutes les activités de notre nature, dominer entièrement le corps et faisait de sa forme structurale autant que ses opérations organiques un libre canal et un moyen de communication, un instrument plastique de cognition et d'action dynamique servant toutes les opérations dans la vie matérielle et dans le monde de la matière. Il faudrait un changement dans le mode opératoire des organes matériels eux-mêmes, peut-être même dans leur constitution et dans leur importance. Il ne leur serait plus permis d'imposer impérieusement leurs limitations à la vie physique nouvelle. Et tout d'abord, les organes matériels eux-mêmes pourrait devenir plus manifestement une sorte de terminaison extérieure des voies de communication et d'action, servir plus efficacement les desseins psychologiques de l'habitant intérieur, réagir d'une façon moins aveugle et moins matérielle, être plus conscient de l'action et du dessein des mouvements intérieurs et des pouvoirs intérieurs, car ce sont ceux-ci qui utilisent les organes et non les organes qui les engendrent et les utilisent comme le support à tort l'homme matériel en nous. Le cerveau deviendrait un canal de communication de la forme des pensées, un accumulateur de leur pression sur le corps et sur le monde extérieur, où elles pourraient alors se réaliser directement, sans communiquer, se communiquer sans moyens matériels, d'esprit à esprit, et produire directement aussi leurs effets sur les pensées, les actions et la vie d'autrui, ou même sur des circonstances matérielles. De même, le corps serait un transmetteur direct, un relais des sentiments et des émotions projetées sur le monde par les forces du centre psychique. Le cœur pourrait répondre directement au cœur, la force de vie venir en aide à d'autres vies et répondre à leur appel en dépit de leur étrangeté et de leur distance. De nombreux êtres pourraient vibrer du même message reçu, sans la moindre communication extérieure, et se rencontrer en la lumière secrète émanée par un même centre divin. La volonté pourrait commander aux organes nourriciers, protéger automatiquement la santé, éliminer l'avidité et le désir, substituer aux procédés matériels des procédés plus subtils, ou puiser l'énergie et la substance dans la force de vie universelle, de sorte que le corps pourrait garder longtemps ses propres énergies et sa substance sans perdre ni usure et sans avoir besoin de se substanter par des besoins matériels, tout en pouvant continuer sans fatigue une activité intense et sans qu'il ne soit nécessaire de s'interrompre pour se reposer ou dormir. La volonté de l'âme ou celle du mental pourrait agir de source plus haute sur le centre sexuel et sur les organes sexuels. Maîtriser solidement l'aiguillon du sexe ou même bannir l'impulsion sexuelle grossière et au lieu d'être au service d'une excitation animale, d'une obscure poussée, d'un désir brutal, s'en servir pour emmagasiner, produire et diriger vers le cerveau, vers le cœur et vers la force de vie, l'énergie essentielle, Ojas. Donc, cette région est l'usine, alimentant ainsi l'action du mental, de l'âme, de l'esprit, et des pouvoirs supérieurs de la vie, et réduisant les dépenses d'énergie à des fins inférieures. L'âme, l'être psychique, pourrait alors plus facilement emplir tout l'être de sa lumière et mettre la matière elle-même du corps à un usage plus haut, au service des desseins supérieurs de l'âme. Ce serait déjà un premier et puissant changement. Mais reste encore tout ce que l'on peut obtenir ni espérer. Mais certes pas tout ce que l'on peut obtenir ni espérer. Il se pourrait bien que la poussée évolutive procédant à un changement des organes eux-mêmes, de leur fonctionnement matériel, de leur utilisation et de l'indispensabilité de leur usage, voire de leur existence, soit considérablement diminuée. Les centres du corps subtil, Shukshma Sharira, dont nous deviendrons conscients au point de percevoir tout ce qui se passe en lui, déverseraient leurs énergies dans les nerfs. Alors je répète la phrase. Les centres du corps subtil, Shukshma Sharira, dont nous deviendrons conscients au point de percevoir tout ce qui se passe en lui, déverseraient leurs énergies dans les nerfs, les plexus, les tissus matériels et irradieraient le corps matériel tout entier. Dans cette existence nouvelle, toute la vie physique et toutes les activités nécessaires pourraient être alimentées et actionnées par ces instruments supérieurs avec une liberté et une ampleur plus grande et par des méthodes moins encombrantes et moins restrictives. Ce changement pourrait aller si loin que les organes eux-mêmes pourraient cesser d'être indispensables. Nous sentirions qu'ils sont trop obstructifs. la force centrale aurait de moins en moins recours à eux, et finalement s'en dispenserait complètement. Si les choses en arrivaient là, les organes pourraient dépérir par atrophie, être réduits à un minimum insignifiant ou même disparaître. La force centrale pourrait les remplacer par des organes subtils, d'un caractère tout différent. Ou si quelque agent matériel restait nécessaire, par des instruments qui seraient des dynamismes en forme ou des transmetteurs malléables plutôt que des organes tels que nous les connaissons. Tout cela pourrait fort bien faire partie d'une transformation totale et suprême du corps, bien que ce ne soit pas là non plus le dernier mot. Envisager de tels changements, c'est regarder très loin en avant. Et les esprits attachés à la forme présente des choses seront peut-être incapables d'ajouter foi à ces possibilités. Mais nulle limite, nulle impossibilité de changement, s'il est nécessaire, ne peut être imposé à la poussée évolutive. Il n'est pas inévitable que tout soit fondamentalement changé, au contraire. Tout ce qui est encore nécessaire à la totalité doit être conservé, mais tout devra devenir parfait. Tout ce qui est utile au but évolutif, tout ce qui est perceptible et susceptible d'accroître, d'élargir, de hausser la conscience, car tel semble être le but de l'évolution et sa volonté centrale ici-bas. Où tout ce qui est nécessaire pour faire progresser les moyens d'action de l'évolution et de son milieu protecteur doit être conservé et encouragé. Mais tout ce qui doit être dépassé, tout ce qui n'a plus d'utilité ou qui est dégradé, qui n'aide plus, qui retarde, doit être rejeté et abandonné sur le chemin. C'est ce qui illustre clairement l'histoire de l'évolution des corps depuis leur première forme élémentaire jusqu'au type le plus développé, l'homme. Mais nous ne voyons pas de raison que ce processus ne continue pas pour la transition du corps humain au corps divin. Si un corps divin doit se manifester ou se bâtir sur la terre, il faut un début de transformation. L'apparition d'un type nouveau, plus élevé et plus développé, et non une simple continuation sans grand changement de la forme physique actuelle et de ses possibilités limitées. Ce qui est à conserver doit l'être, certes, c'est-à-dire tout ce qui est indispensable aux besoins de la vie nouvelle sur Terre ou qui est parfaitement pratique, tout ce qui est encore nécessaire et qui peut être utile au dessein de la vie nouvelle, quoique imparfaitement, devra être retenu, mais développé, perfectionné. Tout ce qui n'a plus d'utilité aux fins nouvelles, ou qui est encore une servitude, doit être rejeté. Les formes de la matière et les instruments matériels indispensables doivent rester, puisque c'est dans un monde de matière que la vie divine doit se manifester. Mais leur matérialité doit être raffinée, allégée, ennoblie, illuminée, puisque la matière et le monde de la matière doivent manifester de plus en plus l'esprit qui les habite. Alors, je vais terminer parce que je trouve ce texte prometteur pour le devenir de l'évolution. Le type nouveau, le corps divin doit continuer la forme évolutive déjà modelée. Il doit y avoir une continuation à partir du type formé par la nature tout au long de son histoire. Une continuation du corps humain au corps divin. Pas de rupture brutale, pas de passage à un état méconnaissable, mais à une haute suite de ce qui a déjà été accompli et en partie perfectionné. Le corps humain recèle des facultés et des instruments suffisamment évolués pour servir la vie divine. Ceux-ci doivent survivre dans leur forme, mais leur perfection doit être poussée plus loin encore. Les limites de leur champ d'action et de leur utilisation doivent disparaître. Leurs tendances défectueuses, leurs suggestions à la maladie et à la dégradation être éliminées, et leur capacité de cognition et d'action dynamique dépasser les limites présentes. Le corps devra acquérir de nouveaux pouvoirs que notre humanité de maintenant peut difficilement espérer réaliser et dont elle ne peut même pas rêver ou qu'elle ne peut imaginer. Tant de choses maintenant qui ne peuvent être connues, exécutées ou créées qu'en se servant d'outils et des machines inventées pourraient alors être accomplies par le corps nouveau avec son propre pouvoir et par l'esprit qui l'habite et par cette force spirituelle directe. Le corps lui-même pourrait acquérir de nouveaux moyens de communication avec les autres corps, trouver de nouvelles régions de communication, de nouveaux procédés pour obtenir la connaissance, une nouvelle sensibilité, de nouvelles forces pour se manœuvrer lui-même ou manœuvrer les objets. Il ne serait pas impossible qu'il recèle et révèle des moyens inhérents à sa propre constitution et à sa substance, des instruments naturels pour rendre proche ce qui est loin et d'annuler les distances, pour connaître ce qui échappe maintenant à la perception du corps, agir là où maintenant l'action est hors de son atteinte et de son domaine. Pour parvenir à des subtilités, à des plasticités qu'interdisent la fixité dont la forme matérielle a besoin dans les conditions présentes. Ces possibilités et bien d'autres pourraient faire leur apparition et le corps pourrait devenir un instrument incomparablement supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer de possible maintenant. Il pourrait se produire, une fois établi, la première emprise de la conscience de vérité, une évolution qui parviendrait aux suprêmes auteurs des degrés ascendants du supramental et qui pourrait peut-être même dépasser les frontières du supramental proprement dit, là, commence à se silhouetter, à se façonner, se déliner les formes qui sont l'expression d'une vie touchée par la suprême et pure existence, conscience, béatitude, qui constitue les mondes d'une vérité d'existence souveraine, monde du tapas dynamique. Tapas est l'énergie concentrée. de la gloire et de la douceur de la béatitude, essence et cime absolue de l'Ananda. Ananda est joie, créateur de tout. La transformation de l'être physique pourrait suivre cette courbe de progression continue et le corps divin pourrait réfléchir ou produire ici-bas, dans une vie divine sur la terre, quelques éclats de cette grandeur et de cette gloire suprême de l'esprit en manifestation. Août 1949, le corps divin de la manifestation supramentale écrit par Sri Aurobindo et lu par Ganga Lakshmi. Aujourd'hui, le jour de Maha Sarasvati Puja, je l'offre.